le roi lion. Ce matin-là, la savane résonnait de cris de joie. Où se rendait donc le peuple des animaux? Au rocher du lion, là où le roi Mufasa et la reine Sarabi étaient sur le point de présenter leur lionceau premier-né. Le nouveau-né avait le regard malicieux de son papa et le doux caractère de sa maman. Rafiki, le vieux singe détenteur des rites de la savane, consacra le futur souverain, Simba. Avec de la terre, il traça un signe mystérieux sur le front du lionceau. Puis, le portant délicatement à bout de bras, il s'avança au bord du rocher du lion et le présenta au monde. Simba, les yeux écarquillés, ne comprenait pas ce qui se passait. En contrebas, genoux fléchis, tête baissée, des centaines de zèbres, d'antilopes et d'éléphants prêtaient allégeance au prince. Toutefois, un seul des royaux sujets restait dans l'ombre. Scar, le frère du roi, fourbe et balafré. Fou de jalousie, il convoitait secrètement le trône et rageait de voir qu'un vulgaire lionceau était déjà désigné comme l'héritier de Mufasa. Simba grandit en ignorant tout du ressentiment de son oncle. Au fil des mois, il acquit force et agilité. Il adorait aller jouer avec les animaux de la savane et faisait la course avec les antilopes. Le lionceau se révélait enjoué et intelligent, mais aussi espiègle et têtu. Chaque soir, Mufasa aimait montrer à son fils leur royaume, la terre des lions.
« Comme c'est beau, hein, papa ? C'est à toi toutes ces terres ?»
demandait le lionceau. « Oui, mon fils. Plus tard, ce beau royaume t'appartiendra. Pour régner, il te faudra du courage et du discernement. » Fasciné, Simba écoutait. Cependant, il était incapable de concevoir la disparition de son père tant aimé. Lorsque Simba n'était pas avec son père, il s'ébattait avec Nala, une petite lionne vive et joyeuse. Leur jeu se déroulait sous l'étroite surveillance de Zazu, le Kalao au bec rouge, qui était le plus fidèle conseiller du roi et un observateur zélé de la savane. Il fut le premier à prévenir Mufasa du retour des hyènes, car ces bêtes sournoises, autrefois bannies, venaient de franchir les frontières du royaume. « Surveille bien Simba, » lui répondit le roi. « En aucun cas il ne doit se rendre au nord. Le retour des hyènes est de bien mauvais augure. » Mais Simba préférait écouter Scar plutôt que Zazu, le rabat-joie. Quelques jours auparavant, son oncle lui avait en effet révélé un secret.
« Au-delà des frontières du nord se trouve le cimetière des éléphants. Mais j'oubliais, tu es encore trop petit pour t'y rendre. »
Bien entendu, Scar voulait attirer son neveu dans le repaire des hyènes. Son plan fonctionna à merveille. Accompagné de Nala, Simba réussit à tromper la vigilance de Zazu et il se rendit au nord. Hélas, leur joie fut brève. Sitôt arrivé dans le cimetière, ils furent encerclés par des hyènes prêtes à se délecter de ces proies faciles. Alors que les lionceaux semblaient condamnés, un rugissement résonna. Alerté par Zazu, Mufasa s'interposa et d'un violent coup de patte, il fit détaler les hyènes. Tandis que Zazu raccompagnait Nala, le roi réprimanda son fils.
« Simba, je ne tolérerai pas que tu te mettes en danger aussi étourdiment. Ta vie est précieuse. Les imprudences ne sont pas une preuve de courage. »
Le lionceau avait connu une telle frayeur que Mufasa ne resta pas longtemps fâché. Simba se blottit contre son père et leurs pensées se perdirent dans la contemplation du ciel nocturne. Regarde, Simba. À ma mort, je deviendrai une étoile. Ainsi, lorsque plus tard, tu te sentiras seul, rappelle-toi que je serai toujours là pour te guider et veiller sur toi. Pendant ce temps, l'ignoble Scar continuait de comploter. Dès le lendemain, il piqua de nouveau la curiosité de son neveu en lui promettant une belle surprise au fond d'un ravin. Le lionceau se précipita dans les gorges. Sous les ordres de Scar, les hyènes se mirent alors à exciter les gnous qui paissaient à proximité. Elles plongèrent le troupeau dans un état de panique folle. Simba risquait d'être écrasé par les sabots de la horde. Terrifié, il parvint de justesse à s'accrocher à une branche. Prévenu par Zazu, Mufasa s'élança dans la mêlée et rattrapa son fils. Il reçut plusieurs coups de sabot, mais réussit à déposer Simba sur une corniche. Cependant, très éprouvé, il glissa et fut entraîné au bord du précipice. Au-dessus de lui, Scar le contemplait avec haine.
« Aide-moi, mon frère, je t'en supplie !» halta Mufasa.
S'assurant que Simba ne le voyait pas, Scar poussa Mufasa dans le vide. Dans un rugissement, Mufasa s'écroula et fut piétiné par le troupeau de gnous. Une fois les bêtes éloignées, Simba accourut, affolé. Il vit le corps de Mufasa couché sur le sol, inerte. Avec maladresse, Simba tenta de le ranimer à coups de pattes et de museau.
« Père, par pitié, ouvrez les yeux !»
implorait le lionceau. Le grand lion ne répondait pas. Allongé sur le flanc, il avait fermé les yeux pour toujours. Scar exultait, mais il devait encore éliminer Simba. Il s'approcha de son neveu et prit un ton faussement apitoyé.
« Quelle tragédie ! Et que va dire ta mère lorsqu'elle apprendra que tout est ta faute ? Si tu n'avais pas désobéi, ton père serait toujours en vie. Honte à toi !
« Que vais-je devenir, oncle Scar ? »
gémit le lionceau.
« Ce que tu as fait est très grave. Cours loin d'ici et ne reviens jamais. »
Aveuglé par ses larmes, Simba s'enfuit aussi vite qu'il le put. Scar ordonna aux hyènes d'exécuter l'héritier du trône. Aussitôt, elles se lancèrent à la poursuite de Simba. Mais grâce à sa petite taille, il leur échappa en se réfugiant dans un buisson d'épines. Puis, il erra longtemps sous un soleil de plomb. Ses forces s'amenuisaient, et il s'effondra sur la terre aride, tandis que dans le ciel tournoyaient des vautours. Il reprit connaissance dans une jungle verdoyante. À ses côtés, il eut la surprise de découvrir un couple mal assorti, composé d'un suricate insolent et d'un phacochère pansu.
Tu reviens de loin, petit. On t'a tiré à temps des becs de ces vautours, dit le suricate. À propos, je m'appelle Timon.
Moi, Simba, dit le lionceau, encore étourdi. Merci pour tout. Je dois...
Et tu crois aller où comme ça, freluquet ? Demanda le gros phacochère. Reste un peu avec nous. Mon nom, c'est Pumba.
Malgré son chagrin, Simba fut immédiatement séduit par les deux compères. Il s'adapta vite à l'Hakuna Matata, l'insouciance que professaient Timon et Pumba. Qui l'eût cru ? Ces deux dilettantes devinrent de parfaits parents de substitution. Avec ses deux nouveaux compagnons, Simba aimait courir dans la forêt, grimper aux arbres et se baigner dans la rivière en se servant du ventre de Pumba comme d'une bouée. Le lionceau réapprit à rire et parvint à oublier un peu son immense tristesse. Avec le temps, le lionceau se transforma en un beau mâle adulte. La vie s'écoulait avec nonchalance jusqu'au matin où le lion fut alerté par les cris de Pumba. Une lionne l'avait pris en chasse. Simba se jeta sur la prédatrice, mais elle eut tôt fait de prendre le dessus. « Nala ? » bredouilla-t-il soudain. « Nala, est-ce bien toi ?»«
Simba ? Impossible ! Tu es mort avec ton père. Scar nous l'a assuré. »
Il a menti. Je me suis enfui, je ne pouvais plus revenir parmi vous. Alors Nala lui apprit que Scar et les hyènes avaient pris le pouvoir et s'étaient emparés de la terre des lions.
Simba, notre terre se meurt. Tu dois défier Scar et reprendre le trône. Il faut que tu reviennes.
Non, Nala, je reste ici.
N'oublie pas que tu es roi,
rugit Nala en colère. Déçue et blessée, la lionne regagna alors la savane. La culpabilité dévorait Simba, mais il ne pouvait se résoudre à retourner parmi les siens. Il en était indigne. C'était sans compter sur le sage Rafiki. Les murmures du vent l'avaient conduit jusqu'au roi légitime de la terre des lions.
« Bonjour Simba, fils de Mufasa !» l'apostropha le vieux singe. « Je suis heureux de te revoir. Viens, suis-moi jusqu'à la mare, j'ai quelque chose à te montrer. »
Intrigué, Simba suivit Rafiki au bord de l'eau.
« Regarde !»
dit le singe en désignant la mare. Sur la surface de l'eau se dessinait une tête de lion.
« Père !»
s'écria Simba bouleversé, avant de réaliser que c'était son propre reflet qu'il contemplait. Il se remémora les paroles du souverain.
« Mon fils, pour régner, il te faudra du courage et du discernement. »
Alors Simba sut où était son devoir. Il se mit en route pour la terre de ses ancêtres. Tout n'y était que sécheresse et désolation, car Scar avait laissé les hyènes dévaster la savane. Simba arriva au rocher du lion, où Scar, le traître, régnait en tyran sur les lionnes. Scar n'en crut pas ses yeux.
« Mufasa, c'est impossible! Tu es mort! C'est même moi qui t'ai précipité dans le ravin !»
Simba comprit que Scar les avait tous manipulés. D'une voix emplie de colère, il s'adressa à l'assassin de son père.
« Je suis Simba, infâme scélérat, et je viens reprendre le trône que tu as volé !»
Paniqué, Scar alerta sa garde.
« Emparez-vous de lui !»
Simba bondit sur l'usurpateur. Son courage avait galvanisé les lionnes, trop longtemps humiliées. Elles se jetèrent sur les hyènes et une lutte à mort s'engagea. Pris au piège, Scar hurla à l'adresse de Simba.
Ce sont les hyènes qui sont responsables. Elles ont tout manigancé. Tu es banni de cette terre. Disparais avec elles,
rugit le nouveau souverain. Vaincu, Scar feignit de partir. Mais dans une ultime perfidie, il se jeta sur Simba qui esquiva le coup. Entraîné par son élan, Scar fit une chute fatale. Simba rugit triomphalement. Le roi était de retour. La pluie se mit à tomber, promesse de vie et de renouveau. Le pays allait connaître une nouvelle prospérité. L'herbe repousserait et la savane se repeuplerait enfin. Scar éliminé, les hyènes bannis, Simba reconstruisit sa vie et la terre de son peuple. Il se montra un digne successeur de son père. Un matin, à l'aube, les animaux se rassemblèrent au pied du rocher du lion. Ils étaient tous là, éléphants, girafes, singes et gazelles. Simba trônait sur le rocher. De son union avec Nala était née une petite princesse. Même Pumba et Timon vinrent rendre hommage à la fille de leur protégé. avec la même émotion que lors de la présentation de Simba, Rafiki éleva le lionceau vers le ciel. Aussitôt, tous les animaux exécutèrent leur plus belle révérence dans un grand silence. Ainsi se joue le cycle de la vie dans son éternel recommencement.